Vous écoutez, on lit pour vous.
Y a-t-il trop de plans d'intervention dans les écoles? Un texte de Léa Carrier, paru le 15 octobre 2025 dans La Presse. Avant, on enseignait à un groupe. Aujourd'hui, on enseigne à des individus. Après bientôt 30 ans à enseigner le français au secondaire, c'est l'image qui vient à l'esprit de Valérie Gagnon. Le nombre d'élèves avec des plans d'intervention a décuplé dans sa classe ces dernières années. Aujourd'hui, il n'est pas rare que le tiers de ces groupes ait droit à des mesures d'aide personnalisées. Grossir la police de caractère sur la feuille d'exercice de l'un, enlever les images distrayantes sur la copie de l'autre, c'est devenu une charge mentale à temps plein. Citation. « J'ai l'impression qu'on est rendu au bout de ce qu'on peut faire comme enseignant. » Fin de citation, dit-elle. Une hausse marquée. Au Québec, un élève sur quatre a un plan d'intervention. Leur proportion dans la composition des classes ne cesse d'augmenter, particulièrement au secondaire. Si le réseau scolaire comptait 207 000 élèves en difficulté en 2015-2016, il en dénombrait 281 000 en 2024-2025. C'est une hausse de 36 % en moins de 10 ans, alors que le nombre total d'élèves a augmenté de 17 % au cours de la même période. La presse a parlé à une quinzaine de professionnels de l'éducation pour tenter de comprendre ce que cache l'explosion des plans d'intervention. Tous s'entendent pour dire qu'il y en a trop. Les enseignants se disent débordés, épuisés, pris à gérer des groupes de plus en plus hétérogènes. Plusieurs estiment qu'il est temps de revoir la politique de l'adaptation scolaire encadrant l'application des plans d'intervention qui datent de plus de 25 ans. Les élèves ne sont pas le problème, croit le consultant en éducation François Massé, qui a travaillé avec plus de 1000 écoles au Québec et dans le reste du pays. C'est le système éducatif qu'il faut repenser, argue-t-il, à commencer par les services aux élèves en difficulté. Citation. Je vais dans les écoles, je vois l'enseignante avec 24 élèves, 16 avec un plan d'intervention. Elle a une couleur de peau que je n'ai jamais vue de ma vie et elle veut laisser la profession. Elle aurait bien raison de le faire. Fin de citation, lâche-t-il. Une approche individuelle. Le plan d'intervention est l'un des socles de la politique de l'adaptation scolaire québécoise qui formule les grandes orientations en matière de soutien aux élèves en difficulté. Il vise à favoriser leur réussite scolaire en fixant des objectifs et en mettant en place des mesures d'aide pour les atteindre. Surtout, il s'inscrit dans une approche individuelle. Les mesures d'aide sont personnalisées selon les besoins particuliers de chaque élève. Le droit à davantage de temps pendant les examens ou l'accès à un ordinateur en classe sont des exemples connus, mais il en existe une foule d'autres. Le ministère de l'Éducation distingue les élèves ayant un plan d'intervention en deux catégories, ceux vivant avec un handicap, qu'ils soient moteurs ou intellectuels, et ceux présentant des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation, dyslexie, troubles de l'attention et du comportement, etc. Citation. Le Québec est le champion du plan d'intervention. Fin de citation, souligne Mélanie Tremblay, professeure à l'unité départementale des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski. Pourquoi? Des facteurs multiples. Citation. Pour certaines personnes, si l'élève n'est pas parfaitement tranquille, c'est qu'il a quelque chose. Et ce quelque chose, il faut le régler avec un plan d'intervention. Fin de citation. Directeur d'une polyvalente de la banlieue de Montréal, Daniel, non fictif, remarque qu'il n'est plus utilisé comme une mesure exceptionnelle réservée aux cas les plus lourds. C'est devenu un automatisme, observe celui qui a demandé l'anonymat parce qu'il n'était pas autorisé par son employeur à parler aux médias. Un plan d'intervention peut être très bénéfique, précise-t-il, mais pour certains élèves et dans certaines circonstances. Citation. Sur 1800 élèves, j'en ai à peu près 550 avec plan d'intervention. Sur 550 plans d'intervention, j'en ai peut-être 50 avec des objectifs mesurables, évaluables. Fin de citation. Le reste, j'ai vu tout et n'importe quoi. Les écoles produisent parfois des plans d'intervention de façon prématurée, souligne la professeure au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université Laval, Nancy Gaudreau. Ceci devrait être le dernier palier d'intervention. Les interventions universelles ou ciblées, qui répondent au plus grand nombre, devraient d'abord être privilégiées, rappelle-t-elle. Or, les écoles manquent trop souvent de ressources ou utilisent mal les ressources existantes pour le faire. Citation : Dans les écoles où les mesures universelles sont de qualité, on a moins besoin de mesures supplémentaires. Fin de citation, affirme-t-elle. Des exemples d'interventions universelles ou ciblées, selon les experts consultés pour ce reportage, varier les façons d'enseigner, alterner les activités plus calmes et plus actives, offrir des ateliers de gestion de la colère pour un sous-groupe d'élèves qui présentent des comportements d'agressivité ou un camp d'été pour les élèves ayant des difficultés en français. D'après la littérature scientifique, la part d'élèves nécessitant des mesures individualisées se situerait seulement entre 1 % et 9 %, soutient Mme Gaudreau. Des parents plus exigeants. Contrairement à ce qu'on croit généralement, un diagnostic officiel n'est pas requis pour avoir droit à un plan d'intervention. C'est la direction de l'école qui décide si un élève en a besoin, en collaboration avec l'enfant, le personnel scolaire et les parents. Selon plusieurs, ces derniers ont de plus en plus tendance à mettre de la pression pour que leur enfant bénéficie de mesures d'aide en classe. Citation : Aller à l'école et demander un plan d'intervention, c'est devenu une mode. Fin de citation, affirme Daniel. Quand il travaillait dans une école primaire il y a quelques années, une mère lui a demandé de mettre en place un plan d'intervention pour aider son enfant à être admis à l'école privée. Citation : Son enfant n'était pas en train d'échouer. Elle disait qu'elle voulait sa réussite optimale. Fin de citation, s'exclame le directeur. Selon Valérie Gagnon, les parents demandent un suivi plus serré de leur enfant et s'attendent à davantage de rétroaction qu'auparavant. Citation : J'ai toujours peur de recevoir des plaintes de parents parce que je n'ai pas honoré un plan d'intervention. Fin de citation, dit-elle. Cette pression d'être en tout temps attentive aux premiers signes de difficulté chez ses élèves est récente, dit-elle. Citation : Quand j'ai commencé à enseigner, on n'était pas sensible. Là, on est extra sensible. Fin de citation, déplore celle qui enseigne dans un collège privé de Montréal. Changement de paradigme. Professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, Mélanie Paré rappelle qu'on repère beaucoup mieux les troubles d'apprentissage et d'adaptation qu'il y a 20 ans. Citation : Avant, un élève qui n'était pas très doué à l'école, personne ne s'en faisait avec ça, mais ses élèves étaient dans les classes. Fin de citation, souligne-t-elle. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Le moindre écart par rapport aux attentes est noté, relevé, remarque Mélanie Tremblay. La hausse des plans d'intervention n'a donc rien de surprenant. Citation : L'école québécoise gère par rapport à la différence. Fin de citation, résume la professeure. Selon elle, l'école québécoise est en train de devenir un beau laboratoire à ciel ouvert. Citation : Quand on sera rendu à 80 % des élèves avec un plan d'intervention, on aura fait la démonstration que la norme n'existe pas ou pratiquement pas. Fin de citation, dit-elle. Citation : Plutôt que de reconnaître la diversité comme une normalité, il y a cette vision qu'il faut mettre des étiquettes. Tant qu'on sera dans cette logique, on nourrit la bête. Fin de citation. C'était Y a-t-il trop de plans d'intervention dans les écoles? Un texte de Léa Carrier, paru le 15 octobre 2025 dans La Presse.
SWAM Ottawa. La natation, un moyen d'inclusion et de bien-être. Un texte de Joël-Luc Lianja, paru le 15 octobre 2025 dans La Rotonde. Swimming with a Mission. SWAM, Ottawa, fait de la natation un levier d'égalité et d'inclusion pour les enfants en situation de handicap. Pour atteindre cet objectif, le SWAM s'appuie sur des bénévoles, dont plusieurs étudiants, étudiantes et diplômés de l'Université d'Ottawa. La mission spécifique de SWAM Ottawa est d'offrir aux enfants en situation de handicap des leçons de natation et des expériences enrichissantes au contact de l'eau, explique Anna Barber, co-présidente de SWAM Ottawa et vice-présidente de SWAM Canada. Présent dans 10 villes au Canada, ce programme repose également sur l'engagement des bénévoles, dont certains étudiants, certaines étudiantes et diplômés de l'Université d'Ottawa, épaulés par quelques professionnels de la santé publique et des élèves du secondaire. Selon Barber, le SWAM Ottawa se démarque par son accessibilité, $40 pour une session complète de 8 semaines. Elle précise que des leçons inclusives destinées aux enfants en situation de handicap s'élèvent habituellement à près de $300 pour une durée similaire. Engagée dans cette initiative depuis 2023, elle déplore le fait que beaucoup d'enfants ne puissent pas se permettre des leçons de natation. Défi à relever. Barber reconnaît que l'apprentissage peut parfois être difficile. Beaucoup d'enfants ont du mal à s'habituer à l'eau. Il faut parfois jusqu'à 3 semaines pour que certains et certaines acceptent enfin de se mouiller. À cela s'ajoutent aussi les défis liés à la communication. Pour y remédier, le programme utilise des PEC, systèmes de communication par échange d'images, accompagnés d'images associées à des mots, pour faciliter les échanges avec les enfants. L'équipe comprend également des instructeurs multilingues afin de répondre aux besoins variés des participants-participantes. Par ailleurs, la procédure d'inscription, uniquement disponible en français et en anglais sur leur site Web, représente un obstacle pour les parents ne maîtrisant pas ces langues. Nous travaillons activement à déconstruire ces barrières pour rendre notre programme accessible à tous, précise Barber. Toujours selon elle, l'accès au programme est aussi limité par un manque criant de bénévoles, ce qui entraîne de longues listes d'attente. Barber explique que les bénévoles n'ont pas besoin de certificat avant de rejoindre le SWAM, mais qu'une formation interne portant sur la natation, l'empathie et les différents types de handicap est offerte avant leur première interaction avec les enfants dans l'eau. Elle ajoute que le SWAM recrute les enfants via plusieurs canaux. Nous avons des partenariats avec des physiothérapeutes qui recommandent des jeunes participants, mais aussi la force du bouche à oreille via les réseaux sociaux et l'engagement des parents au sein d'une communauté très soudée. Impact humain derrière des leçons de natation. La demande étant forte, le programme accueille désormais de nombreux enfants, affirme-t-elle. Pour y répondre, l'équipe, jusqu'ici surtout recrutée à l'Université d'Ottawa, s'ouvre à des bénévoles du Collège Algonquin et de l'Université Carleton. Elle souligne que, au-delà des compétences techniques, l'empathie, la communication et la pensée critique sont essentielles. Voir ces enfants progresser avec tant de joie est une grande source de satisfaction pour moi. J'apprécie particulièrement de contribuer au bien-être de la communauté, dit Myriam Boucher. Étudiante en BA en psycholinguistique à l'Université d'Ottawa, Myriam Boucher, sauveteuse et passionnée de natation depuis 5 ans, confie qu'elle a toujours aimé enseigner la natation et travailler avec des enfants ayant des besoins particuliers. Je nourris cette passion depuis le secondaire, quand je travaillais comme aide-enseignante auprès d'enfants en situation de handicap, précise-t-elle. Son engagement auprès de SWAM lui permet d'explorer concrètement le travail de communication avec ses enfants. C'est vraiment ce qui me passionne, et je sais que cette expérience influencera ma carrière, car j'aspire à devenir orthophoniste, a-t-elle conclu. Boucher n'est pas la seule bénévole à trouver du sens dans son engagement. Gabrielle Tianco, étudiante en sciences de la santé à l'Université d'Ottawa, témoigne. « Ce que j'ai surtout appris, c'est la patience. Les leçons ne se déroulent jamais exactement comme prévu. Travailler avec des enfants et des bénévoles exige une présence constante et beaucoup de souplesse. » un parent confie qu'il pouvait enfin lâcher prise et prendre une sieste de 20 minutes dans sa voiture, rassuré que son enfant soit en sécurité avec l'équipe, confie avec émotion Tianco. Nous sommes très reconnaissants, reconnaissantes, pour toutes les expériences positives avec les moniteurs, monitrices et le personnel de SWAM au fil des ans. Voir mon enfant s'épanouir avec d'autres enfants, alors qu'il n'aurait pas pu le faire dans un cours classique, me touche profondément, dit le parent d'un enfant apprenant. Le ressenti de Tianco rejoint celui des familles. La confiance dans l'équipe est au cœur de la réussite du programme et transforme le quotidien des enfants et des parents. C'était SWAM Ottawa, la natation, un moyen d'inclusion et de bien-être. Un texte de Joël-Luc Lianja, paru le 15 octobre 2025 dans La Rotonde.
Des avancées pour les maladies neurodégénératives, un texte de Florence Morin-Martel, paru le 14 octobre dans Le Devoir. Comment ça va? Ces trois mots servent souvent d'introduction pour prendre des nouvelles de quelqu'un. Cet automne, Le Devoir s'inspire de cette expression pour tâter le pouls de notre monde. Dans ce texte, on examine les avancées qui transforment le quotidien de patients atteints de maladies telles que Parkinson, sclérose en plaques, SLA ou Alzheimer. Parkinson, traitement plus accessible et mieux ciblé. La maladie de Parkinson est causée par la perte progressive de neurones dans le cerveau, entraînant une baisse de la production de dopamine et, par conséquent, une diminution du contrôle des mouvements. Il en résulte notamment des tremblements, des raideurs musculaires et une lenteur des mouvements. À ce jour, il n'existe aucun remède, mais des traitements de plus en plus accessibles permettent désormais de mieux contrôler les symptômes dans les stades avancés de la maladie. Depuis plus d'un an, une pompe sous-cutanée nommée Vyalev, V-Y-A-L-E-V, est offerte au Québec et remboursée à certaines conditions. Citation : Elle diffuse la médication en continu, ce qui permet d'éviter les montagnes russes de symptômes au fil de la journée. Fin de citation, explique le docteur Ariel Lévy, neurologue et professeur adjoint de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Plus efficace que les comprimés oraux et plus accessible que la stimulation cérébrale profonde et la pompe intestinale, cette technologie transforme la prise en charge, dit-il. Le diagnostic, lui aussi, s'est affiné. On commence à pouvoir distinguer les formes de Parkinson à progression lente de celles qui évoluent plus vite. Cela permet d'ajuster le traitement plus tôt ou d'intégrer plus rapidement certains patients dans des projets de recherche, souligne le docteur Lévy. Sclérose en plaques, des pas de géant. Maladie neurologique chronique, la sclérose en plaques s'attaque à la myéline, cette gaine protectrice des fibres nerveuses, essentielle à la transmission de l'influx nerveux. L'inflammation qu'elle provoque entraîne souvent une détérioration de cette substance. Cela entraîne des symptômes comme de la fatigue extrême, de la faiblesse musculaire, des troubles sensoriels, visuels, cognitifs ou encore urinaires, ainsi que des changements d'humeur. Mais le visage de la sclérose en plaques a radicalement changé en deux décennies. Citation : C'est la discipline en neurologie qui a le plus évolué en matière de traitement. Fin de citation. Affirme le docteur Alexandre Pratt, neurologue et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la sclérose en plaques. Citation : En 10 ans, on est passé de 5 ou 6 options à une quinzaine. Lorsqu'elle est diagnostiquée tôt et bien prise en charge, la sclérose en plaques n'est plus la maladie invalidante qu'elle était autrefois. Fin de citation. La majorité de ces traitements sont offerts au Québec et permettent non seulement de ralentir la progression de la maladie, mais aussi d'améliorer significativement la qualité de vie des patients. Citation : On voit alors beaucoup moins de patients qui atteignent le fauteuil roulant, même s'il y en a pour qui c'est encore le cas. Fin de citation. Le diagnostic s'est affiné avec les années, ce qui permet aujourd'hui une détection plus précise de la maladie. Citation : La prise en charge des patients dans des cliniques spécialisées est donc de plus en plus systématique. Fin de citation, ajoute le spécialiste. Et chez certains patients ayant commencé un traitement il y a 10 ans, les résultats sont impressionnants. La maladie semble complètement stoppée. Une guérison en vue? Le docteur Pratt reste prudent. Citation. On ne sait pas encore ce qui attend ces patients dans 20 ans. Seul le temps nous le dira. Fin de citation. Est-ce là une thérapie ciblée, un nouveau cap? La sclérose latérale amyotrophique, SLA, aussi appelée maladie de Lou Gehrig ou de Charcot, affecte les cellules nerveuses motrices qui contrôlent les muscles volontaires, ceux qu'une personne active consciemment pour parler ou pour bouger les bras et les jambes. Progressivement, les muscles s'atrophient, ce qui rend les gestes les plus simples de plus en plus difficiles. Actuellement, la SLA ne peut être guérie. Chez 80% des personnes atteintes, l'espérance de vie moyenne est de 2 à 5 ans après le diagnostic, selon l'organisme SLA Québec. Dans environ 10% des cas, la sclérose latérale amyotrophique est d'origine génétique. Une avancée récente marque un tournant pour certains patients. L'arrivée du tofersen, un traitement ciblé conçu pour ralentir la progression de la SLA chez les personnes porteuses d'une mutation du gène SOD1, présente chez environ 1% des cas, souligne le docteur Nicolas Dupré, neurologue au CHU de Québec, Université Laval, et professeur titulaire à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Le tofersen représente donc une percée, même s'il ne concerne qu'une minorité des patients. Cela n'empêche pas le médecin d'y voir un jalon important. Pour la première fois, un traitement ciblé pour une forme génétique de SLA existe. Citation, c'est un véritable changement de paradigme. Fin de citation, affirme-t-il. Le traitement a été commercialisé au pays en mai dernier. Au Québec, il est actuellement évalué par l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INES. Le gouvernement décidera ensuite s'il l'ajoute ou non à la liste des médicaments assurés. Alzheimer, un test sanguin pour une détection plus précoce. L'Alzheimer, maladie neurodégénérative incurable, se manifeste aux stades initiaux principalement par des pertes de mémoire récentes, des troubles du langage et une désorientation spatiale. Par la suite, les difficultés exécutives, comme prendre des décisions, posent problème et interfèrent avec la vie de tous les jours. Un premier test sanguin de détection de la maladie, qui permet désormais un diagnostic plus précoce et plus précis, a été approuvé aux États-Unis en mai dernier, mais il ne l'est pas encore au Canada. Ce test détecte dans le sang un ratio de protéines spécifiques à la maladie avant l'apparition de la démence. Citation, ça ne remplace toutefois pas une évaluation clinique, c'est un complément. Fin de citation, précise le docteur Serge Gauthier, professeur émérite en neurologie et psychiatrie à l'Université McGill. Un diagnostic plus précoce change la donne, explique le docteur Gauthier. Citation, lorsqu'on détecte la maladie avant l'apparition de la démence, la personne est encore autonome, elle peut conduire et même travailler. On peut donc intervenir pour l'aider à planifier, à s'informer et à faire face aux imprévus. Fin de citation. C'était « Des avancées pour les maladies neurodégénératives », un texte de Florence Morin-Martel, paru le 14 octobre dans Le Devoir.
Cri du cœur pour un meilleur remorquage des véhicules adaptés. Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 3 septembre 2025 dans Le Devoir. En se dirigeant vers Toronto depuis Montréal pour un événement fin août, Frédéric McNamara a eu un accident qui a complètement déchiré le pneu de son véhicule. Membre de CAA, il contacte l'organisme pour que son véhicule se fasse remorquer. En arrivant sur place, l'employé lui indique qu'il va devoir patienter. Comme M. McNamara se déplace en fauteuil roulant, il ne peut embarquer dans la remorqueuse et l'on ne peut pas remorquer son véhicule s'il contient encore un passager. Résultat, Celui qui est atteint de dystrophie musculaire de Duchenne est resté 3 heures en bordure de l'autoroute 401, à 30 degrés, sans eau ni nourriture, déshydraté et vulnérable, avant qu'un taxi adapté ne le transporte à un garage encore ouvert. Personne ne devrait être laissé dans cette situation, déplore en entrevue M. McNamara, qui témoigne pour faire entendre sa cause et, idéalement, changer certains protocoles. Dans les faits, CAA a respecté sa norme interdisant le remorquage d'un véhicule si un passager est encore à l'intérieur et exigeant qu'un employé reste sur place tout le long de l'attente. En vertu de la loi ontarienne, les véhicules ne peuvent pas être remorqués avec des passagers à l'intérieur, y compris ceux ayant des besoins en matière d'accessibilité, affirme l'entreprise dans une déclaration écrite. Les mêmes directives s'appliquent au Québec. Pour Frédéric McNamara, ce n'est pas assez. Il faudrait une solution adaptée à ce type de situation, indique-t-il, en mentionnant que lors d'une situation similaire survenue au Québec, son véhicule a été remorqué alors qu'il était à l'intérieur. Le chauffeur de la remorqueuse voulait d'ailleurs aider M. McNamara, mais les superviseurs au téléphone ne pouvaient pas outrepasser le protocole, mentionne ce dernier. Pour celui qui travaille dans l'industrie du jeu vidéo, une solution possible pourrait être un corridor de sécurité systématiquement installé pour rendre l'attente moins dangereuse. C'est inhumain. Questionné par Le Devoir, Dominique Palladini, directeur général du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal, est d'avis qu'il devrait toujours y avoir des protocoles adaptés et que l'idée de M. McNamara pourrait fonctionner. M. Palladini explique que plusieurs entreprises ou institutions publiques ne sont pas ou sont mal équipées pour s'occuper des personnes en situation de handicap qui ont des aides à la mobilité. Par exemple, les voitures de police et les ambulances ne sont pas équipées pour recevoir un fauteuil dans leur véhicule. Selon le directeur général du RUTA Montréal, c'est inhumain qu'une personne attende 3 heures. Si on avait été en hiver, dans une grande période de froid, ça aurait donné quoi comme situation, se demande-t-il. C'est à ça qu'il faut réfléchir en tant que société pour n'échapper personne. C'était « Cri du cœur pour un meilleur remorquage des véhicules adaptés », un texte de Léo Mercier-Ross paru le 3 septembre 2025 dans Le Devoir.